Oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours. Venez écouter l'histoire du dragon dans mon humble demeure, la chaîne des chers players. C'est Yannick et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Dragon's Dogma 2 qui sort vendredi 22 mars sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur PC. Dragon's Dogma, c'est une franchise qui est arrivée la première fois en 2012 sur PS3 et 360, qui a débarqué après sur PC, PS4, Xbox One et même sur Switch. Il y a éventuellement même un animé qui est sorti sur Netflix en septembre 2020. C'est dire à quel point en fait Capcom compte sur cette franchise justement pour pouvoir s'implanter dans le monde de l'heroic fantasy et du action RPG en monde ouvert, quelque chose qui s'est largement popularisé quelques années après la sortie du premier volet avec The Witcher 3, notamment. En tout cas, Dragon's Dogma 2, Capcom semble bien miser dessus avec, c'est un des plus gros jeux de ce début d'année 2024. Concernant les conditions de test, j'ai fait le jeu sur PlayStation 5 avec une clé fournie par Capcom. Je n'ai pas terminé la quête principale. J'ai passé une trentaine d'heures sur le jeu et je vais vous expliquer justement pourquoi je l'ai pas fini. C'est pour ça que j'appelle pas cette vidéo un test, mais un avis. Je pense que c'est plus un avis qu'une critique complète. En tout cas, je pense que j'ai suffisamment joué pour vous donner mon ressenti sur Dragon's Dogma 2, sachant que pour être totalement transparent avec vous, je n'avais jamais touché au premier épisode. On en a beaucoup parlé, mon ami Aymar notamment, mais c'est vrai que j'étais complètement vierge. J'ai un petit peu débarqué dans cet univers sans trop savoir où est-ce que je mettais les pieds. Et quelque part, des fois, ça fait du bien. J'avais vu évidemment des vidéos lors des trailers, etc. Mais franchement, je ne savais pas vraiment à quelle sauce j'allais être mangé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai débarqué dans un monde, en fait, où je me suis retrouvé dans une prison, prisonnier, et à casser des pierres. Et puis d'un coup, suite à une attaque de monstre, je me suis rendu compte que mon avatar était quelqu'un d'important. C'était l'insurgé, celui qui doit combattre le dragon que certains vénèrent mais que beaucoup craignent dans ce monde. C'est le symbole de la destruction du monde et nous sommes l'insurgé. L'insurgé, c'est l'avatar du joueur, c'est quelqu'un qui est lié au dragon. Je ne vais pas vous expliquer dans quelles conditions il est lié au dragon, mais en tout cas, voilà, il est très 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 important. Donc c'est un monde de fantasy dans un univers où règnent les humains, les léonins. Après il y a d'autres races, il y a des trolls, des elfes, etc. Donc on est vraiment dans un monde de fantasy. Il y a deux grands royaumes, il y a Vermund, voilà où sont basés les humains, et donc c'est plutôt la campagne, c'est vert, enfin c'est assez agréable à parcourir. Et puis il y a le royaume des Léonins, c'est le royaume de Bat'al, si je prononce bien. Je sais pas comment on le prononce. En tout cas, c'est un monde plutôt aride avec des canyons, etc. Et donc, notre héros va devoir essayer de prouver qu'il est bien l'insurgé, puisque l'insurgé doit régner sur le monde. Et évidemment, certaines personnes ne veulent pas que ça soit vous, l'insurgé. Et essaye de tromper la population. Et donc, votre quête, ça va être de prouver que vous êtes bien l'insurgé et évidemment de régler ce problème de dragon, un problème de taille, s'il en est. Voilà un petit peu pour le contexte. Sachez que quand vous commencez le jeu, vous choisissez une classe. Alors, il y en a 4 au départ, mais au fil de l'aventure, vous pourrez en débloquer jusqu'à 10 pour votre avatar, ce qui est sympa. Vous avez le guerrier, donc simple épée bouclier classique. Vous avez l'archer pour les combats à distance. Vous avez le voleur qui est un petit peu polyvalent et qui va jouer beaucoup sur la vitesse. Vous avez le mage qui va utiliser des sorts de magie. C'est cette classe que j'ai choisie pour commencer parce que des gens ayant fait le premier Dragon's Dogma, comme mon ami Tib que je salue, m'avaient dit que c'était assez sympa de jouer avec la magie. Donc je me suis dit, allez, tiens, je vais jouer à mage. Après, vous pourrez débloquer d'autres classes comme champion, sorcier, et puis des classes combinées comme archer mage ou chevalier mage, etc., etc. Alors certaines, notamment la classe de conquérant, je crois qui est l'ultime classe, elle est réservée pour votre avatar et non pas pour votre pion. Là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un pion? Un pion, en fait, c'est c'est une intelligence artificielle, c'est un PNJ qui va vous accompagner tout au long du jeu. Il y a deux types de pions, il y a le pion principal et les pions que vous allez pouvoir recruter. Alors, le pion principal, c'est un personnage dont vous choisissez la classe et qui va monter de niveau plus ou moins en même temps que vous et qui vous allez, comme pour votre personnage principal, vous allez pouvoir changer sa classe, lui attribuer des compétences principales, des compétences d'armes. Et donc ce personnage-là sera toujours avec vous. S'il meurt, vous pouvez le réanimer. Si vous le perdez, vous pouvez le retrouver dans les failles qui sont justement ces endroits où on peut recruter les pions. Donc ce pion-là sera avec vous tout au long de l'aventure. Mais il y a deux autres pions que vous allez pouvoir recruter. Et en fait, ce sont les pions principaux d'autres joueurs. Donc ça, c'est assez marrant puisque au cours de mon aventure, j'ai pu recruter les pions de certains amis testeurs. Donc c'était assez sympa de me dire tiens, parce qu'on voit en fait l'idée utilisateur à qui appartient le pion justement. Et donc ces pions là vous allez pouvoir les recruter. Par exemple, moi techniquement je vous ai dit, j'étais un mage, mon pion principal était un guerrier, donc je recrutais très souvent un archer pour avoir le combat à distance, et ensuite soit un voleur, soit un champion, soit un autre sorcier, justement pour pouvoir varier un petit peu les classes et les approches. En tout cas, voilà, le problème c'est que les pions que vous louez ne montent pas de niveau. Donc si vous avez un pion, si vous louez un pion niveau 10, si vous arrivez au niveau 15, niveau 16, il va se retrouver très en retrait. Donc d'où l'intérêt de constamment changer les deux pions qui vous accompagne, votre pion principal et vous. Donc voilà un petit peu le système, et ça c'est super super bien, vraiment. Ça c'est un truc que j'ai adoré dans le jeu, puisque vraiment on a l'impression déjà de vivre une vraie aventure en groupe. Et alors les pions sont bavards, souvent ils vont vous dire, et puis ils ont une intelligence, c'est-à-dire que votre pion principal, quand vous dormez par exemple à l'hôtel, enfin ou à l'auberge plutôt, puisqu'on est plutôt dans un monde de fantasy, quand vous passez une nuit, votre pion va vous dire tiens, il va vous faire comprendre qu'il a été appelé par d'autres joueurs, et donc il va vous ramener des objets, et surtout il va vous dire ah tiens, lorsque j'étais dans un autre monde, j'ai vu que par ici il y avait une grotte, où là il y a un trésor, où on devrait passer par là. Et mieux, quand vous recrutez certains pions qui ont fait certaines quêtes du jeu, justement ils ont la connaissance de la quête. Donc par exemple, si vous recrutez un pion qui a déjà fait une quête où il faut sauver quelqu'un qui s'est fait attaquer par des loups, il va pouvoir vous guider vers l'endroit exact où se trouve la quête. Et donc tout ça, en fait, ce système de pions, je le trouve extrêmement intelligent, extrêmement bien fait, avec une intelligence artificielle qui fonctionne vraiment bien. C'est un petit peu un mot qui fait peur aujourd'hui, mais là, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. J'ai jamais eu de bug, j'ai jamais eu... Les pions se comportent toujours. Vous avez sur le pavé, sur la croix directionnelle, vous pouvez demander soit d'être très offensif, soit d'être défensif, soit d'être avec vous, etc. Ils obéissent toujours très bien aux ordres. Il y a toujours des interactions de dialogue. Alors, certains se répètent un petit peu, mais globalement, on a vraiment l'impression que notre pion... le pion principal et les pions annexes, appelons-les comme ça, forment vraiment une équipe qui est soudée. Ils sont contents quand il y a une victoire, même pendant le combat ils disent attendez, je viens vous aider, machin truc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez organique qui marche vraiment bien. Vous pouvez pas choisir, enfin si, quand vous recrutez le pion vous choisissez sa classe, vous pouvez éventuellement voir s'ils ont certaines compétences, mais vous pouvez rien changer sur les deux pions que vous recrutez. Il y a que sur votre personnage, sur l'insurgé, donc le héros du jeu, et sur votre pion principal que vous pouvez changer de classe, équiper des compétences d'armes, des compétences principales, etc. Donc ça, c'est bien, et donc vous serez constamment amené à recruter les pions secondaires, comme je les appelle, et donc ça vous permet en fait de changer un petit peu. Tiens, je vais prendre un archer de meilleur niveau, j'avais un archer niveau 10, je vais prendre un archer niveau 15, ah, il a des nouvelles compétences, et vous vous rendez compte que ces compétences, elles sont cool, vous les notez, comme ça, quand vous recruterez des archers plus tard, vous direz, tiens, cette compétence, elle est bien, je vais l'utiliser. Donc, tout ce système, en fait, marche extrêmement bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un énorme point fort sur le jeu et qui fait que l'aventure, elle est quand même très, très, très différente des autres mondes d'action RPG en monde ouvert, dans des univers fantaisistes. On en a quand même pas mal depuis l'histoire du jeu vidéo. Il y en a eu pas mal du tout, et surtout ces dernières années. En tout cas, là, ce système de pion fait vraiment la différence sur Dragon's Dogma et lui donne immédiatement une identité dans son gameplay. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé. À côté de ça, On va se retrouver dans un système d'action RPG classique avec des quêtes principales, des quêtes secondaires. Sachez qu'il y a un cycle de temps qui passe, donc si vous tardez trop, si quelqu'un vous demande d'aller sauver quelqu'un qui a eu un problème avec des loups, je prends cet exemple-là, il est bien parlant. Si vous attendez trop de temps, au bout d'un moment, bah, la quête, elle pourra plus se terminer parce que ou elle aura une issue différente parce que le temps qui passe, les loups, au bout d'un moment, ils ont faim, il faut bien qu'ils mangent en fait. Donc voilà, petit bémol, je trouve que dans les menus, on a du mal à des fois avoir qu'est-ce qu'est la quête principale, quelles sont les quêtes secondaires, ce qui fait qu'elles sont un petit peu empilées. On peut les classer par les quêtes qui se situent les plus proches de l'endroit où on se trouve, les quêtes les plus récentes, les plus anciennes. Mais il y a qu'à certains moments de mon aventure où j'étais, je me disais, mais en fait, j'aimerais bien avancer la quête principale, mais j'avais une quinzaine de quêtes dans mon journal, mais je ne savais pas quelle était la quête principale à suivre, en fait. Donc voilà, un petit peu dommage de ce côté-là. Sachez que du coup, je me suis beaucoup baladé pour faire plein de quêtes. Et donc, contrairement à beaucoup d'univers en monde ouvert, les voyages rapides sont assez compliqués. C'est-à-dire que il faut trouver une pierre spéciale dans certains endroits, s'ils ont cette pierre spéciale, et utiliser un consommable qui coûte assez cher, genre 10 000 unités de 10 000 pièces, on peut dire, 10 000 pièces, ce qui est assez cher, surtout au début du jeu. Donc vous allez être rapidement contraint de voyager par vous-même, soit à pied, soit en utilisant un système de charrette en fait qui va d'une ville à l'autre. Donc il faut bien faire attention dans quel sens, parce que des fois je me suis dit, tiens, allez, je vais utiliser une charrette, en fait elle partait pas dans le bon sens et je me suis retrouvé à l'autre bout de la map sans le vouloir. Sachez même que même au cours des voyages en charrette, vous allez pouvoir vous faire attaquer par les ennemis, et ça c'est un petit peu la particularité de Dragon's Dogma, et du 2 particulièrement, c'est que vous avez un bestiaire qui est extrêmement nombreux entre les villes et les villages, et vous allez constamment vous faire attaquer, attaquer et encore attaquer et de nouveau attaquer par des petits gnomes, par des cyclopes, par des dragons, par des griffons, etc., etc. Vous allez constamment être sous le feu et vous devoir vous battre, et quelque part ça rend les voyages palpitants, mais parfois aussi ça les rend un petit peu pénible. Et j'ai trouvé que des fois on voulait juste avancer un petit avancer, et un voyage qui pourrait mettre 5 minutes d'un point A à un point B va mettre une vingtaine de minutes parce que vous aurez 15 minutes de combat, et quand c'est des combats très répétitifs contre le même type d'ennemi, ça devient un petit peu embêtant. Alors le système de combat, il est simple, il s'arrête quand votre personnage principal, l'insurgé, n'a plus de vie. Les pions peuvent mourir, vous pouvez les réanimer, que ce soit votre pion principal ou les pions secondaires, vous pouvez les aller et les réanimer, il n'y a pas de souci. Sachez que si vous perdez de la vie, si vous perdez trop de vie, vous avez une espèce de barre de vie grise en fait, qui est de la vie que vous pouvez récupérer. Ça m'a fait penser à Street Fighter du même éditeur. Quand vous prenez des coups, vous perdez de la vie, mais il y a aussi une barre des fois quand vous prenez certains coups, la barre de vie devient grise, c'est de la vie que vous pouvez récupérer avec les consommables ou avec des sorts de guérison. C'est un petit peu ce que j'utilisais moi, les sorts de guérison avec ma classe de mage. Mais voilà, la vie qui est complètement perdue, il va falloir dormir ou soit un feu de camp, soit dans un lieu, dans un lit, dans une auberge, etc., pour pouvoir la récupérer. Sinon, vous ne pouvez pas récupérer la vie qui est 100% perdue, que ce soit pour vous ou pour vos pions. Ce qui fait que des fois, j'arrivais dans des villes, après un périple de plusieurs kilomètres, et j'étais complètement au bord de l'agonie. Hein. Et donc ça, c'est assez ennuyeux parce que il y a quelque chose qui m'a embêté. Je trouve que dans ce style de jeu, un système de sauvegarde rapide et de pouvoir charger ses sauvegardes, ça aurait été extrêmement pertinent et utile. Là, en fait, vous avez un système de sauvegarde qui est propre au système de jeu et que vous n'avez aucune maîtrise dessus, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas charger telle ou telle sauvegarde. C'est un petit peu embêtant, et je trouve qu'il y a plein de fois où je me suis dit, bon, là, en fait, je suis entre deux villes, je suis complètement en slip, je peux plus faire de feu, je peux pas dormir, je peux pas récupérer de vie, je souffre le martyr, et en fait, je ne pouvais pas charger plus loin que la dernière sauvegarde. Donc, je ne pouvais pas revenir, par exemple, à la ville dans laquelle je me trouvais avant pour pouvoir, justement, peut-être mieux me stuffer, etc. Donc voilà. Et en fait, cette espèce de pénibilité des déplacements, elle est parfois punitive et elle a un petit peu entaché mon expérience de jeu. Ce qui fait qu'il y a plein de fois où je me suis retrouvé à mourir pendant des heures et des heures parce que justement j'étais sur un chemin que j'aurais peut-être pas dû emprunter, mais en même temps ça suivait une quête, une espèce de logique dans un déroulement et ça a été parfois très compliqué. J'ai eu même envie des fois d'abandonner un petit peu parce que justement je me disais que c'était un jeu qui était trop difficile pour moi. Il y a des pics de difficulté. Sachez que c'est, il faut le savoir, qu'il y a des moments où c'est vraiment très difficile. N'hésitez pas à fuir si vous le pouvez. Alors même si des fois les ennemis vous poursuivent comme ils lâcheront rien du tout, mais voilà, n'hésitez pas à fuir si vous sentez que que la marche est trop haute pour vous, ou lorsque la sauvegarde se recharge, d'essayer de trouver un autre passage pour éviter le groupe d'ennemis sur lequel vous êtes tombé. Voilà. Donc, en tout cas, c'est assez jouissif à jouer. Moi, j'ai beaucoup joué magicien, donc c'était super cool de pouvoir lancer les sorts, que ce soit les sorts de guérison, les sorts d'attaque, parce qu'il y a un système de, il y a un système élémentaire en fait. Donc, vous avez des faiblesses, qu'elles soient élémentaires, vous avez des malus, des bonus. Enfin, donc tout ce qui est qui fait un petit peu le sel du RPG. Et en général, vous le retrouvez ici. Et donc, c'est assez jouissif. J'ai aussi essayé d'autres classes. Alors, j'étais plus confortable dans mon mage. J'avais vraiment envie de roleplayer cette classe. Donc c'était cool, mais globalement le système de combat, il est bien. Sachez que vous pouvez pas, il faut absolument pas toucher l'eau parce que sinon il y a un kraken qui se déplace partout et qui va vous tuer. En fait, c'est un gimmick pour vous dire que non, on n'a pas prévu, on n'a pas codé de système de jeu dans l'eau. Et parfois la caméra, elle est extrêmement proche et elle est dans des cavernes ou dans des canyons un petit peu resserrés dans la vallée de Batal notamment. C'est assez difficile des fois de savoir où se trouvent les ennemis, surtout les ennemis volants. La caméra a un petit peu du mal et c'est vrai que ça rajoute un petit peu une pénibilité dont on se serait bien passé à mon sens. Voilà. Donc mon aventure sur Dragon's Dogma 2, je l'ai terminé, j'ai pas terminé le jeu, mais mon aventure au moment de ce test, j'avais une trentaine d'heures de jeu. J'avais fait beaucoup de quêtes principales, beaucoup de quêtes annexes. J'étais arrivé à plus ou moins un petit peu moins de niveau 30, au niveau 28, il me semble, quelque chose comme ça. Donc je pense que j'avais bien avancé, mais ça reste évidemment une petite partie de l'aventure qui est extrêmement riche. Il y a énormément de PNJ qui vont vous demander des choses, il y a beaucoup d'histoires, il y a des quêtes secondaires qui limite sont comme des quêtes principales, il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont très un petit peu futiles, il y a énormément de dialogues, vous pouvez ressusciter même des PNJ qui meurent, vous pouvez les ressusciter dans un laps de temps donné avec les bons objets. Donc il y a une espèce de profondeur de jeu et de monde organique que j'ai particulièrement aimé. Il y a même un côté systémique parce que des fois vous êtes en train de combattre un cyclope et puis un griffon arrive et va attaquer le cyclope. Donc vous, soit vous profitez de la situation, vous attendez que les deux ennemis soient affaiblis pour pouvoir attaquer ou justement pour pouvoir fuir selon votre niveau. Alors globalement, Dragon's Dogma 2, mon expérience, elle a été plutôt positive. Alors à certains moments, j'ai pesté contre la difficulté, contre la pénibilité, justement d'être constamment harcelé par des ennemis, contre une caméra qui était contre moi et pas avec moi, contre le fait d'avoir les voyages rapides limités, contre des fois une difficulté à savoir où je devais aller pour la quête principale, parce qu'elle n'était pas bien indiquée dans les menus quelle était la quête principale et quelles étaient les quêtes secondaires. Malgré tout, j'ai toujours voulu continuer d'avancer et je vais continuer mon aventure parce que j'ai trouvé que c'était assez jouissif justement de progresser, de découvrir des secrets, de voir un petit peu toutes les possibilités qui étaient ouvertes, de me dire tiens finalement ils ont pensé à plein de choses, le monde est organique, le monde est vivant, le monde a quelque chose à nous dire et finalement ce système de pions fait que bon mais quand on est bloqué, tiens si j'allais recruter un pion d'une autre classe un peu plus fort, même on a toujours envie de continuer parce que même quand on se prend un mur, on a toujours l'impression qu'il y a un chemin de traverse pour pouvoir continuer l'aventure. Évidemment, il faut aimer les univers de fantasy, il faut aimer les action RPG, il faut accepter certains défauts. Une technique qui sur PS5 est un peu en retrait, le jeu est à 30 FPS et on sent vraiment que la console a du mal. On a peut-être besoin d'une PS5 Pro, coucou. Et du coup, voilà, faut accepter un petit peu tout ça. Mais si vous avez aimé le premier, foncez sur le deuxième. Si vous aimez les univers de fantasy, faut pas hésiter. Si vous aimez les action RPG, laissez-vous tenter. Sinon, je vous conseille d'attendre un petit peu, voire de regarder plusieurs vidéos pour voir si ça peut être un jeu qui vous convient. En tout cas, pour l'instant, Je ne peux pas donner de note au jeu parce que je ne l'ai pas entièrement terminé, mais mon avis est globalement positif sur Dragon's Dogma 2. Malgré les petits défauts, je trouve que Capcom a fait beaucoup d'efforts. C'est un jeu très généreux qui a beaucoup de qualité. Merci à tous, passez une très bonne journée, à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à me demander un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut à tous, ciao ciao!